Salut, c'est Corentin et Louis. Vous écoutez Radio Pont. On vous présente une nouvelle émission. Salut Corentin.
Salut Louis. Alors aujourd'hui, nous vous présentons la revue de presse des secondes Bac Pro. Au programme ce mois-ci, nuages de fumée et nuages radioactifs, des moutons qui reconnaissent l'homme, Claude Makélélé et Dasbot, le tournage.
Eh bien, les voilà qui font reparler d'elle, n'est-ce pas Mathéo?
C'est Valérie Marzuir qui en parlait dans Les Échos du 8 novembre. Le prix des cigarettes allait encore augmenter. Cela faisait 4 ans que le prix n'avait pas bougé et ce n'est pas fini. Il y aura encore 6 hausses d'ici 2020. Mais cela ne suffit pas à décourager les fumeurs d'après les médecins. Sur franceinfo.fr, le 12 novembre, l'addictologue Jean-Pierre Couléron a déclaré que cette hausse n'était pas suffisante, loin de là. Il faudrait que ce soit très cher pour décourager les fumeurs. Mais qu'en pensent les fumeurs eux-mêmes? Sur France Bleu, le 11 novembre, des Mayennais ont expliqué que cela ne les empêcherait pas de fumer. Cela ne nous empêchera pas d'arrêter de fumer, il faut en avoir l'envie et je ne l'ai pas, a commenté un consommateur.
Merci Mathéo d'avoir étudié le sujet et maintenant un nuage bien discret mais tout aussi nocif que la fumée des cigarettes. Logan et Kylian vont vous présenter le sujet qu'ils ont étudié de près.
Une question inquiétante, doit-on soupçonner tous les nuages situés au-dessus des centrales nucléaires, comme le montre la photo de l'Express prise à Tarragone en Espagne? En tout cas, l'Institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire soupçonne un accident nucléaire russe d'être à l'origine d'un nuage radioactif qui a brièvement survolé la France en octobre. À cette date, les stations françaises de surveillance de la qualité de l'air à Seyne-sur-Mer, Nice et Ajaccio avaient relevé des traces de pollution au ruthénium-106. Un produit de fission issu de l'industrie nucléaire avec un pic de 46 microbecquerels par mètre cube à Nice début octobre. Dans Le Parisien du 10 novembre, on peut lire que l'information n'avait pas fuité à cette époque, alors même que des analyses pour détecter le polluant, à savoir le ruthénium-106, avaient été effectuées dans au moins 14 pays européens. L'autorité de sûreté nucléaire, ASN, était formelle. Il n'y a pas de risque identifié pour la population en France.
À l'époque, par précaution, le gouvernement avait réalisé des contrôles par sondage sur les champignons importés des pays concernés, qui n'avaient révélé aucune contamination à ce jour. Les champignons sont en effet un aliment particulièrement à risque. Selon Le Parisien, ce ne serait pas un accident sur un réacteur nucléaire, car il y aurait d'autres produits de fission, mais plutôt un accident dans une usine de retraitement de combustible usé ou dans une unité de fabrication de sources radioactives à des fins thérapeutiques. Enfin, selon l'IRSN, un tel accident en France aurait nécessité localement de mettre en œuvre des mesures de protection des populations sur un rayon de l'ordre de quelques kilomètres autour du lieu de rejet. Précautions qui n'ont pas eu lieu en Russie, pays mis en cause, puisque la zone de rejet la plus plausible se situe entre le Volga et l'Oural.
Merci à Logan et Kylian de nous avoir présenté le nuage radioactif qu'ils ont étudié de près. Maintenant, passons aux moutons capables de reconnaître Emma Watson ou Barack Obama.
Eh oui, les moutons sont intelligents. La réaction d'Europe 1 relève qu'à l'université de Cambridge, des chercheurs ont découvert que des moutons avaient certaines facilités à reconnaître une personne à partir d'une photo en deux dimensions et que cela nécessite un processus cérébral complexe. Jean-Luc Nautiez, dans le Figaro du 14 novembre, affirme que la reconnaissance faciale en dit long sur la structuration et le fonctionnement du cerveau. Il précise que si les moutons se trompent, un signal sonore retentit, mais s'ils trouvent la bonne réponse, ils ont droit à une friandise, boulette de céréales. Après de multiples sessions, les chercheurs ont montré qu'un taux de réussite de 80% pour les moutons, alors que dans les mêmes circonstances, les hommes ont eu 90% de réussite.
Merci Tanguy de nous avoir parlé des moutons et avec leur réussite. Justement, en parlant de réussite, on peut dire que l'ancien joueur de football Makélélé est lui aussi bien reconnu. Kylian et Jérémy nous ont préparé une super chronique parlant de Makélélé.
En effet, Claude Makélélé est devenu le nouvel entraîneur de l'AS Eupen en Belgique.
Et sur le site d'Europe1.fr, du 6 novembre, on peut lire qu'à 44 ans, l'ex-milieu de terrain du Real Madrid et de Chelsea quitte donc son poste d'entraîneur adjoint de Swansea, club de Premier League, qui avait rejoint en janvier dernier.
Makélélé dispose d'un extraordinaire palmarès de joueurs et d'une solide expérience d'entraîneur au niveau international. Il était le moteur de chacune des équipes où il a évolué. Se sont félicités des dirigeants belges.
Sur RTBF, on apprend que Claude Makélélé a donné son premier entraînement à Eupen ce mardi. Le coach français a remplacé lundi Jordi Condom à la tête des Pandas. bon dernier de Pro League. Il concède ne pas être stressé par la tâche qui l'attend. Dans la vie, il faut prendre des risques dans tous les métiers. Je prends cela avec envie et enthousiasme. On verra les résultats.
Makelele, c'est un nom. Champion en Angleterre, en Espagne et en France. Il a remporté une Champions League et disputé une finale du Coupe du Monde.
Le Français a laissé une impression décontractée après cette première interview. « Je suis souvent souriant. J'ai été éduqué comme cela », a-t-il dit. Il a même ajouté « J'espère inspirer de bonnes idées aux joueurs. Le plus important, c'est la simplicité. J'irai souvent vers le plus simple. Mais, dans la rigueur et dans le travail, ce sont les règles du football. »
Autant dire que c'est un bon début de programme pour un entraîneur.
Merci à Jérémy et Kylian de nous avoir donné des nouvelles de footballeur Makelele. Et pour finir l'émission, revenons dans la région avec Antoine et Ryan.
Ça s'est passé à La Rochelle. Mardi 31 octobre, la ville a été envahie par de drôles de personnages. Rien d'étonnant, c'était Halloween. En réalité, c'était le tournage d'un téléfilm, Das Boot, sous la direction d'Andreas Prochaska. On pouvait lire, dans le sud-ouest du 13 novembre, que La Rochelle et son impressionnante base sous-marine servaient à nouveau de décor après le long métrage de Wolfgang Petersen, réalisé en 1980.
Plusieurs arguments au choix de cette ville pour le tournage. Parmi les 5 bases sous-marines de l'Atlantique ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale et qui n'ont pas été détruites. Pour en savoir plus, un grand dossier dans le journal Sud-Ouest du 15 novembre où on apprend que la Charente-Maritime a servi de décor à la série TV allemande, la plus chère de l'histoire. En effet, la production a dépensé 2,3 millions d'euros durant son séjour de La Rochelle à Corignac en passant par Ré, Bénon et Tézac.
Merci d'avoir écouté cette première revue de presse et à très bientôt.
Au revoir.
On dirait la table de la météo. Bravo.